Et Seigneur, nous proclamons ce soir la victoire de ton nom sur nos vies, Seigneur, sur nos familles, sur cette église, Seigneur, sur cette ville, sur cette nation et dans cette génération. Nous proclamons la victoire du nom de Jésus. Et tous ceux qui l'aiment disent Amen ce soir. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Prenons place sans tarder si vous le pouvez et tournons dans l'évangile de Luc. Chapitre 11. Vous l'avez? Vous l'avez trouvé? Non? Vous l'avez trouvé? Amen. Allez maintenant dans l'évangile de Matthieu. Je me suis trompé. C'est pas Luc, c'est Matthieu. C'est juste pour vous faire travailler. L'Éternel qui te guérit. Amen. Nous croyons que Dieu guérit. Et nous avons vu ensemble dès le début que Dieu voit l'homme dans son entier, le voit corps, âme, esprit. Et le Seigneur n'a jamais eu l'intention de seulement guérir le corps. Il y a des gens qui ont une fixation très limitée sur la guérison. Ils ont une interprétation, une définition de la guérison comme étant seulement physique. Et on le voit sur Paris, il y a des gens qui courent partout, qui courent d'une réunion à l'autre. Il y a parfois des événements qui s'organisent et qui mettent tout en avant sur la guérison physique pour attirer les foules. Mais Dieu voit beaucoup plus loin. Dieu veut guérir l'homme au complet. Amen. Et on a vu ensemble que la guérison, en fait, le mot guérir signifie rendre l'homme normal. Dieu n'a pas créé l'homme comme il est aujourd'hui. L'homme que vous voyez aujourd'hui, en vous et autour de vous, l'homme en lui-même sans Dieu, Dieu ne l'a pas voulu ainsi. Dieu l'a créé, Dieu a créé quelque chose d'extraordinaire, mais le péché a changé l'homme. Et j'aimerais vous présenter deux hommes ce soir, l'homme déchu et l'homme nouveau. Et il y a une maladie qui dépasse toutes les maladies que nous connaissons. Cette maladie est la racine de toutes les maladies. Et même, on va faire un diagnostic, si vous voulez bien me suivre, qui ne sera pas facile, parce que là, si vous allez chez le médecin et que le médecin doit rendre un diagnostic qui est fatal, qui est final, qui est négatif, c'est très difficile pour les gens. Nous, on a accompagné parfois des gens en fin de vie, ce sont des moments extrêmement difficiles, où des gens parfois ont reçu un diagnostic extrêmement difficile sur leur vie. Et Dieu rend un diagnostic qui est très dur à lire. La preuve, c'est qu'on n'en parle pas beaucoup dans les églises de ce diagnostic, parce que c'est tellement dur à lire qu'on peut vider une église avec ce diagnostic. Mais c'est la réalité. Donc, ne partez pas pendant que je prêche. Pendant un long moment, ça va paraître négatif. On va faire un diagnostic. Mais restez jusqu'au bout. Si vous restez jusqu'au bout, vous n'allez pas découvrir un remède, vous allez découvrir un miracle. Que Dieu veut guérir l'homme de cette maladie. Je pense que vous savez de quelle maladie que je parle. C'est le péché. Maintenant, le péché produit quelque chose dans l'homme qui est extrêmement dangereux pour l'homme. Et j'aimerais parler de cette... C'est l'une des conséquences, mais c'est peut-être l'une des conséquences les plus graves. Vous savez, le péché, ça fait comme un effet domino. Il y a une nature de pécheur en l'homme et elle va produire quelque chose qui va produire quelque chose qui va engendrer quelque chose et quelque chose d'autre et ça fait un effet domino comme ça. Et si on pouvait dire ceci ce soir de façon bien imparfaite, le premier domino, le premier effet du péché, c'est ce qu'on appelle l'indifférence. Et l'indifférence va produire beaucoup, beaucoup, beaucoup d'autres maux, M-A-U-X, beaucoup de mal dans notre société. Et à un moment, Jésus, dans l'évangile de Matthieu, regarde autour de lui. Et si vous connaissez Jésus depuis un certain temps, vous savez que Jean dit qu'on ne pourrait pas écrire dans des livres ce que Jésus a fait, n'est-ce pas? Jésus a opéré tellement de miracles. Jésus a fait des guérisons physiques. En veux-tu, Jésus? On ne peut même pas écrire tout ce que Jésus a fait. Mais tout le bien que Jésus a fait en 3 ans et demi sur terre, c'est extraordinaire. On ne pourrait même pas l'écrire. Cette génération a vu des choses que nous, on n'a pas vues. Et à un moment, Jésus se tourne vers eux et il dit, « Comment est-ce que je pourrais vous décrire? » Verset 16. À qui comparerais-je cette génération? Elle ressemble à des enfants assis sur une place publique qui s'adressent à d'autres enfants en disant, Nous avons joué de la flûte pour vous, mais vous n'avez pas dansé. Nous avons entonné des chants funèbres, mais vous ne vous êtes pas lamentés. » Regardez-moi ici un instant. De quoi est-ce que Jésus parle? En fait, les gamins à l'époque essayaient de s'amuser. Il n'y avait pas beaucoup de joie comme aujourd'hui. Il n'y avait pas de Game Boy, il n'y avait pas de téléphone et tout. Et parfois, les enfants sur la place publique faisaient de la musique ensemble. Et Jésus parle d'une génération qui est devenue tellement insensible, indifférente. Jésus dit, à quoi est-ce que je pourrais comparer cette génération? J'aimerais la comparer à des enfants qui essaient de faire danser des enfants, essaient de les faire réjouir et vous n'y arrivez pas. Ils n'y arrivent pas. En d'autres mots, Jésus dit, là vous dites, mais pasteur, pourtant la Bible dit souvent que la foule s'est réjouie et tout quand Jésus a fait des miracles, mais c'était tellement momentané. C'était tellement qu'un instant. Et Jésus dit, j'ai fait tellement pour vous. J'ai fait tellement de choses extraordinaires. Ces gens-là ont vu des choses que toi et moi, nous n'avons jamais vues. Et Jésus dit, ça n'a pas réjoui votre cœur. Ça n'a pas suffi. Et même, il dira, et c'est comme si on essaie et même si on joue une complainte et ça ne suffit pas. En fait, je n'arrive plus à tirer des émotions de cette génération. Cette génération est devenue insensible, indifférente. C'est ce que Jésus dit. Et là, Jésus va même aller plus loin. Il va parler à Capharnaüm, à des villes. Il va leur dire, littéralement, si on avait fait à Tyr et Sidon, qui était une ville non-juive, une ville de païens, une ville de pécheurs, une ville des gens qui ne connaissaient rien de Dieu comme Israël, et le Seigneur dit, si j'avais fait les miracles ici, si je les avais fait à Tyr et Sidon, la ville au complet serait venue à Dieu. Incroyable. Et là, il dit Capharnaüm, parce que Capharnaüm, on pourrait presque dire que c'était presque la ville centrale du ministère de Jésus pendant un long moment. Beaucoup de choses que Christ a fait ont pris place à Capharnaüm. Et il y a comme un orgueil qui est monté dans Capharnaüm. Ils se sont dit, mais nous, on est, on a Jésus tout au milieu de nous. Jésus fait tellement de miracles parmi nous à Capharnaüm, c'est extraordinaire. Et Jésus dit à Capharnaüm, tu penses que tu seras élevé jusqu'au ciel, mais non. Non. Et regardez ce qu'il dit. Et toi, Capharnaüm, verset 23. Seras-tu élevé jusqu'au ciel? Non. Tu seras abaissé jusqu'au séjour des morts. Car si les miracles accomplis au milieu de toi l'avaient été dans Sodome, vous connaissez Sodome et Gomorre, elles subsisteraient encore aujourd'hui. J'aimerais vous dire ceci, le Seigneur ne se trompe jamais dans son jugement. Le diagnostic que Jésus porte sur Capharnaüm, il est juste et parfait, il n'y a pas d'exagération, il n'y a pas de sentimentalisme. Le Seigneur ne s'est pas emporté dans un élan de colère et il réfléchit. Tout ce qu'il dit est directement inspiré de Dieu. Et Jésus dit à Capharnaüm, c'est incroyable, il leur dit, t'es pire que Sodome et Gomorre. Mais vous dites, mais pasteur, c'est pas possible. Quand on lit Sodome et Gomorre, il y avait une dépravation sexuelle comme on n'a jamais vue. Et le feu du ciel est tombé sur Sodome et Gomorre. Et Jésus dit à Capharnaüm, Capharnaüm sera détruite et ne sera pas rebâtie. Et si vous allez aujourd'hui en Israël, vous allez voir qu'il y a des vestiges de Capharnaüm, elle n'a jamais été rebâtie. Il y a un tremblement de terre qui l'a détruit en un instant. C'est pourquoi je vous dis, le jour du jugement, le pays de Sodome sera traité moins sévèrement que toi. Et Jésus, donc, se reporte à Sodome et Gomorre, un temps incroyable. Et Jésus ne reproche pas les mêmes péchés physiquement, si vous me permettez de le dire ainsi, à Capharnaüm qu'à Sodome et Gomorre. Capharnaüm était une ville probablement beaucoup plus religieuse que Sodome et Gomorre. Qu'est-ce que Jésus leur reproche? L'indifférence. Vous êtes devenus insensible. Et à un moment donné, ce n'est pas la première fois, il y a à peu près plus d'une dizaine de fois à travers les prophètes que Dieu a comparé Israël à Sodome et Gomorre. Maintenant, quand Dieu a détruit le temple, 400 ans avant Jésus-Christ, plus de 400 ans avant Jésus-Christ, presque 500 ans avant Jésus-Christ, quand le Seigneur a détruit le temple, oui, il y avait une dépravation terrible dans le temple à Jérusalem, il y avait de la sorcellerie, il y avait des pièces dans le temple où il y avait des prostituées sacrées, les gens, c'était horrible, je suis d'accord avec ça. Mais Dieu dira, à travers le prophète Ézéchiel, je le lis pour vous, « Voici quelle a été la faute de ta sœur Sodome. » Maintenant, écoutez bien ceci, c'est très, très impressionnant ce que Dieu dit. « Elle vivait dans l'abondance et dans une tranquillité insouciante. Elle et ses filles, et elle n'a pas soutenu la main du malheureux et du pauvre. » Incroyable. Dieu dit, la base du péché de Sodome et Gomorrhe, avant toute la dépravation de péché qu'elle a connue, la racine du mal de Sodome et Gomorrhe, c'était alors qu'elle était bien, alors qu'elle était dans l'abondance, elle n'a pas soutenu la main du pauvre et du malheureux. Autrement dit, Sodome était une ville indifférente à la souffrance des pauvres, une ville indifférente à la souffrance des gens autour d'elle. Et si tu continues le texte, Dieu dit, après cela, elle a commencé à aller vers des dépravations. Et voyez-vous, donc, la plus grande maladie de l'homme, c'est sa nature de péché. Mais la première manifestation dangereuse du péché, c'est l'indifférence. Et l'indifférence amène l'homme dans une dépravation sans fin et sans fond. C'est terrible. Une des images que Dieu utilise le plus dans la Bible, le plus clairement possible, pour qu'on puisse comprendre l'impact de cette nature de péché, c'est la lèpre. Maintenant, on dit que lorsque la lèpre, lorsque ce virus, cette bactérie, peu importe, cette maladie, lorsqu'elle touche au système nerveux humain, elle le mange. La lèpre mange, détruit le système nerveux, et la première chose que le lépreux perd, c'est sa sensibilité. Un lépreux devient insensible. Et ses extrémités, il commence par ses, même le nez, les doigts de pied vont tomber. Il va perdre des membres, le lépreux. Il n'aura même pas mal. Parce qu'avant, les nerfs ont été mangés. Il a perdu toute sensibilité. Et la lèpre est l'image la plus utilisée pour faire comprendre à l'homme l'impact du péché dans sa propre vie. Donc, sans Jésus-Christ, je suis vraiment en danger parce que j'ai une nature de péché et cette nature me rend insensible. Et Jésus dit qu'on peut, Jésus a démontré, on peut même devenir insensible en présence de Jésus-Christ lui-même. N'est-ce pas incroyable? Maintenant, restez avec moi, il y a une bonne nouvelle à la fin, j'arrive. Deux choses ce soir. L'homme déchu est indifférent, mais l'homme nouveau est compatissant. Le cœur de Dieu est profondément affecté par cette maladie. Dieu n'a pas créé l'homme, écoutez-moi bien ce soir. Dieu n'a pas créé l'homme pour qu'il ait le cœur dur. Dieu n'a pas créé l'homme pour qu'il soit indifférent. Dieu n'a jamais eu l'intention que l'homme soit insensible. Mais le cœur de l'homme est comme la peau de l'homme. Si ma main, aujourd'hui on travaille presque plus avec un crayon, on travaille comme ça, tu vois. Mais il y a des gens qui travaillent avec leurs mains. Et moi, les rares occasions où j'ai dû travailler avec mes mains, ma femme pourra vous le dire, j'ai très rapidement eu des ampoules parce que je ne suis pas habitué. Mais ça m'est arrivé dans des églises de serrer la main. Il n'y en a pas beaucoup ici, mais en province, j'en ai vu. Des mains d'hommes de chantier, des hommes de BTP, des maçons, des vrais mecs. Ils te serrent pas la main. Ils t'engloutissent la main. Hein? Ils te... Bonjour, pasteur. Ah! Et quand j'ai serré la main de ces hommes, leurs mains étaient remplies de cornes. Leurs mains étaient sèches. Ils ne sentent plus les choses. J'ai vu un jeune homme qui travaille dans le BTP toucher des choses brûlantes et pas se faire mal. Il ne sent plus. Le cœur de l'homme est pareil. Le cœur de l'homme, plus il est au contact de la souffrance, plus il devient insensible à la souffrance. Comprenez-vous? Plus tu vas regarder le mal à la télé, plus tu vas regarder de la violence à la télé, plus tu vas regarder, tu vas te permettre de regarder des choses, plus tu vas devenir insensible à ces choses-là. Il y a une chaîne américaine, la semaine dernière, n'allez pas voir, c'est terrible. Il y a une chaîne américaine qui a diffusé l'image d'un homme à motocross qui est mort dans le Grand Canyon aux États-Unis. Ils n'auraient jamais dû diffuser ça. Et ça l'a enflammé les réseaux sociaux. Tout le monde va aller voir. Les gens regardent quelqu'un mourir en live avec sa GoPro. On le voit tomber et mourir en live comme si c'était toi qui le faisais. Et les gens, ils aiment ça aujourd'hui. C'est encore plus réaliste que le cinéma. Ça leur fait plus rien. Mais ça, ça n'arrive pas comme ça. C'est la corde, c'est l'usure, c'est l'habitude. On s'use, on s'habitue. On s'habitue à regarder des choses violentes, on s'habitue à regarder des choses qui attristent le Saint-Esprit. Et j'aimerais vous dire ceci, Dieu dit « Qui siégera près de la gloire de Dieu ?» C'est écrit ça dans le prophète. « Qui siégera près des brasiers ? Qui pourra s'approcher de Dieu ?» Ça dit « Celui qui ne veut pas regarder la violence. » Parce qu'à l'époque de Jérémie, le monde était déjà très insensible. À l'époque, quand on rentrait de la guerre, la foule, les paysans, les villageois se ruaient pour aller voir les guerriers, aller entendre des histoires de sang, de guerre. Raconte-moi, tu lui as coupé la tête et puis quoi, et encore toi. Les gens étaient devenus insensibles. Mais Dieu n'est pas insensible. Notre Dieu est une personne sensible. Et Dieu dit, littéralement, Dieu démontre, regardez, quelques textes pour vous, combien Dieu est affecté. N'endurcissez pas votre cœur comme à Mériba. Là, vos ancêtres m'ont provoqué. C'est impressionnant. Hein? Comment est-ce qu'un peuple peut marcher devant la gloire de Dieu, la nuée, la Shekina, voir la mer s'ouvrir, voir la manne, voir des miracles que toi et moi, nous n'avons jamais vus? Et comment on peut en venir à lever? Parce que quand ça dit « ils m'ont provoqué », en hébreu, ils m'ont défié, ils m'ont challengé, ils m'ont littéralement presque insulté. Comment est-ce qu'on peut lever le poing contre Dieu? Je peux comprendre qu'il y a des gens parfois complètement ivres sur la rue ou dans des souffrances terribles de vie qui ne connaissent pas Dieu, qui ne connaissent rien Dieu, n'ont jamais rencontré Dieu. À un moment donné, comme un cri de détresse lève le poing de colère contre Dieu, je peux comprendre. Et Dieu est tellement compatissant. Mais un peuple qui a marché 40 ans avec Dieu face à face, lever le poing contre Dieu, et dire, oh, on veut manger de la viande. C'est impressionnant. Hein? Et c'est ce que Dieu dit. Dieu dit, ne faites pas comme eux. Ils m'ont provoqué, ils m'ont mis à l'épreuve. Mettre à l'épreuve, c'est le mot ici en hébreu, c'est pousser quelqu'un pour se battre. C'est terrible, hein? Dieu dit, ils m'ont poussé pour se battre avec moi. Comment est-ce qu'on peut en venir? C'est pas possible. Eh bien, oui, mon ami, c'est possible. L'homme en lui-même, est une nature de plus en plus insensible. Dieu prend très au sérieux cette maladie. Regardez ce que Jésus dit. En effet, le cœur de ce peuple est devenu insensible. Tu vois? Il est devenu avec le temps insensible. Plus ils ont vu des miracles, plus ils ont vu Dieu agir, plus ils ont vu la grâce de Dieu, plus ils ont entendu des paroles célestes. Pierre a dit que quand Jésus parlait, c'était comme aucun homme. Pierre a dit, tu as les paroles de la vie éternelle, à qui irions-nous, Seigneur? Mais certains ont laissé leur cœur venir à Dieu, certains ont laissé leur cœur être attiré. Mais malheureusement, une grande majorité, Jésus parle d'eux, il dit, ils sont devenus insensibles. On ne parle pas de l'Ancien Testament, on parle du Nouveau Testament. Devenus insensibles. Mes amis, le jour de la Pentecôte, pendant que certains se repentaient, d'autres se moquaient. Impressionnant, hein? Ce que l'homme peut faire. Et regardez la guérison. Ils sont devenus insensibles. Ils se sont bouchés les oreilles. Ils ont fermé leurs yeux de peur que je ne le voie, de peur que leurs oreilles n'entendent, de peur que leur... En fait, ils ne voulaient pas comprendre. Ils ne voulaient pas être guéris. Et là, tu te dis, mais pourquoi? Pourquoi est-ce qu'ils se sont bouchés les oreilles? Je vais vous dire pourquoi. Historiquement, c'est prouvé, Israël n'attendait pas un Messie comme Jésus-Christ. Ce n'est pas ce qu'ils attendaient. Ils attendaient un Messie, que j'appelle moi personnellement, politico-matérialiste. C'est ça qu'ils attendaient. Viens changer, enlève les Romains, donne-moi du pain, augmente ma qualité de vie, donne-moi des choses matérielles, j'ai mal. Guéris-moi, guérissez, guéris mes finances, guéris tout ce qui est matériel, mais mon âme à l'intérieur, touche pas à ça. C'est pour ça qu'ils ont crucifié Jésus-Christ. Ils attendaient un Messie politique et matériel, mais ils n'attendaient pas vraiment un Messie spirituel pour leur âme. Une minorité est venue à Christ. Là, on parle de la globalité, de la majorité. Il y a un début à ça dans la Bible, c'est Caïn. Très intéressant. Caïn, jaloux d'Abel, vous connaissez l'histoire, tue son frère, Dieu vient à lui. Franchement, entre nous, Dieu se présente à toi ce soir. Qu'est-ce que ça te ferait? Tu entends la voix de Dieu. Là. Tu rentres dans ton appartement et Dieu t'appelle. Je ne sais pas comment elle est la voix de Dieu. Mais tu imagines, Léandro, c'est partout. Là. Léandro, moi je tombe la face contre terre. C'est fini, Seigneur. Alléluia. J'ai attendu ça toute ma vie. Seigneur, tu fais juste un mot et c'est du bonheur pour moi. Non? C'est pas votre bonheur? Hey, entendre la voix de Dieu, c'est merveilleux. Mais pas pour Caïn. Dieu parle à Caïn et dit, où est ton frère? Abel. Et Caïn lui répond, froidement, insensible, indifférent. Il s'est tellement endurci qu'il a tué son frère par jalousie. Et il dit à Dieu, littéralement ceci, je ne sais pas. Comment est-ce qu'on peut mentir à Dieu? Tu sais que Dieu sait. Tu sais que derrière la question, il y a autre chose. Où est ton frère? Je ne sais pas. Et là, il va dire quelque chose, mes amis, qui fait peur. Mais c'est la racine du mal de notre société aujourd'hui. Suis-je le gardien de mon frère? Réfléchir, hein? Tous les gens que tu croises autour de toi, partout sur la rue, dans le métro, dans les transports, dans les voitures, dans les bouchons, ils ne pensent qu'à eux. C'est « me, myself and I ». Je, me, moi. Ton collègue, tu ne peux pas compter sur lui. Ton patron, tout le monde pense qu'à sa pomme. Et vraiment, je vous dis, que ce soit dans toutes les sphères de la société, toutes les sphères de la société, les gens, là vous dites, oh non, mais pasteur quand même, il y a des gens qui sont là pour les autres. Sans Jésus-Christ, ce n'est pas une vraie compassion. On va le voir dans un instant, la seule vraie compassion qui existe, elle vient par le Saint-Esprit. La compassion humaniste qui existe dans ce monde, elle tient comme un moment, ce n'est pas la vraie compassion. Et derrière ça, il y a beaucoup de gens, je sais parce que je les ai beaucoup côtoyés, on a fait beaucoup, beaucoup d'humanitaire dans notre vie, et ils vont te le dire, les gens, sans Jésus, c'est « j'ai trouvé une raison de vivre ». Ça me fait du bien d'aider les autres. Je me guéris. J'oublie mon passé. J'oublie mes problèmes. Mais ce n'est pas ça la vraie compassion. Voyez-vous? Et Caïn dit à Dieu, « Suis-je le gardien de mon frère? » Dieu n'a pas répondu à ça. Hein? Parce que ce n'était pas à Caïn de poser une question à Dieu. C'était à Dieu qui avait posé la question à Caïn. Dieu avait dit, « Où est ton frère? » Et Caïn dit, « Suis-je le gardien de mon frère? » Voyez-vous, ce que Caïn a dit aujourd'hui, je vous dis vraiment, le monde entier le dit. Le monde entier. Mettez mes paroles à l'épreuve. Faites le tour du monde. Allez en Amérique du Sud dans des tribus très, très, très lointaines. Allez en Inde avec les castes. Pensez à l'hindouisme, le fatalisme de l'hindouisme. Alors que de plus en plus d'Européens aiment l'hindouisme, épousent l'hindouisme, mais ils ne savent même pas de quoi ils parlent. L'hindouisme, c'est extrêmement fataliste. Le bouddhisme qui cherche à arriver au nirvana. Le nirvana, c'est le rien, c'est le néant, c'est je suis bon, hein, c'est rien, c'est le vide, le Bouddha. C'est rien. Et les gens, ils aiment ça, ils achètent un Bouddha dans une boutique, ils mettent ça dans leur salon. C'est impressionnant quand même. L'hindouisme, les castes, où non, je n'ai pas à l'aider. Il est d'un caste inférieur à moi. De toute façon, il n'y a rien à faire. Il va mourir, il va se réincarner dans un caste supérieur. Donc, je n'ai même pas besoin de l'aider. Chacun pense à sa pomme. Suis-je le gardien de mon frère? Mais Jésus a répondu. Il a dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis, ses bien-aimés. Voyez-vous, l'homme déchu est indifférent, l'homme nouveau est compatissant. Quelqu'un dit amen. 10 générations après Caïn, arrive le déluge. L'Éternel vit que les hommes commettaient beaucoup de mal sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient constamment uniquement vers le mal. Pourquoi est-ce que les hommes en étaient venus à faire que du mal? Parce qu'ils ne pensaient qu'à eux. Comment est-ce qu'on peut justifier de faire mal à quelqu'un? Il y a une seule façon, c'est de penser qu'à soi. Et d'arriver même à un point où on se dit, non, c'est bien de faire ce mal parce que, dans le fond, je le fais pour moi. Puis si je ne l'avais pas tué, c'est lui qui m'aurait tué. Les hommes étaient devenus complètement méchants. Il est impossible de faire du mal à quelqu'un si tu compatis envers cette personne. Impossible. Donc, quand Dieu regarde la planète et qu'il dit que les hommes faisaient du mal de partout, c'est que les hommes étaient devenus extrêmement indifférents, insensibles et égocentriques. Donc, le péché, c'est le virus de l'homme déchu. Le péché, c'est la lèpre. Et le péché, ça produit quelque chose de terrible. Ça produit l'indifférence et l'égocentrisme. Je veux dire ceci ce soir. Que Dieu me donne la sagesse. Même dans nos églises, il faut faire très attention à l'évangile qu'on prêche. Dieu aime l'homme. L'homme, Dieu honore l'homme. L'homme a une dignité pour Dieu. Mais écoutez-moi bien. L'homme ne doit pas être le centre de l'Église. C'est Christ qui est le centre. Et quand une Église commence à prêcher trop, tu es précieux, tu es précieuse, tu es précieux, bien sûr qu'on l'est. On est si précieux que Jésus a donné sa vie pour nous. Mais écoutez-moi bien. Comment dirais-je? En retour, on ne vit plus pour nous-mêmes. On vit pour sa gloire. Il y a un danger, parce que c'est à la mode, hein? Il y a des modes. Et c'est à la mode de dire beaucoup aux gens à quel point ils sont précieux. Mais si on ne leur dit que ça et qu'on ne leur explique pas qu'ils sont malades d'un virus terrible, vous savez ce qu'on fait? On nourrit le virus! Et on va faire des monstres! Parce que les gens viennent à Jésus, comment ils sont? Ils sont pécheurs. Là, on parle, on est tous comme ça, hein? On est tous égocentriques. Si on vient à Christ égocentrique et que tu me dis, Dieu m'aime, ah, super, mais oui, Dieu m'aime, mais aussi je suis pécheur. J'ai besoin de me repentir. Amen. Et maintenant, quand je ne vis plus pour moi. Je vis pour lui, je vis pour elle, je vis pour toi, je vis pour Christ, je vis pour le corps. Amen. C'est extrêmement dangereux. Je sais parce que j'ai vu des gens partir là-dedans. Aux États-Unis, c'est très, 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 très tendance. Dire aux gens combien ils sont grands, ils vont faire des grandes choses. On va faire un grand appel sur ta vie, tu vas faire des grandes choses pour Dieu. Oui, peut-être. Mais n'oublions pas que Dieu choisit les choses faibles. Amen. Et n'oublions pas que nous sommes aussi faibles sans Dieu. Plus on va nourrir l'ego, plus on va faire des égocentriques qui sont déjà égocentriques. Vous me comprenez? Et regardez ce que ça dit ici. Et là est notre espoir en terminant ce soir. L'Éternel regretta d'avoir fait l'homme. Il n'y a pas d'espoir. Attendez. L'Éternel regretta d'avoir fait l'homme sur la terre et il eut le cœur peiné. Et là, tu peux écrire dans ta Bible, Dieu fut coupé au cœur. Ah, Dieu, c'est comme si, en hébreu, c'est « to carve », c'est comme si tu avais fait un trou dans le cœur de Dieu. C'est très dur à traduire, mais c'est « Dieu fut coupé au cœur ». Dieu regardait l'humanité se faire mal les uns des autres, et Dieu lui a eu mal, parce que Dieu est sensible. Mais souvenez-vous de ce que je dis. Souvenez-vous de ce verset, parce qu'il est extrêmement important en conclusion. Et à ce moment-là, dans Genèse, chapitre 6, regardez bien, ne tournez pas, mais parce qu'on va vite passer à autre chose. Il y a quelque chose d'incroyable que je n'ai jamais compris, là j'ai compris. Les hommes vivaient 800 ans, 900 ans avant le déluge. À partir du déluge, Dieu dit, « Mon esprit ne contestera plus indéfiniment avec l'homme. » Impressionnant, hein? Dieu dit, c'est impressionnant, même le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu était sur les hommes pour les convaincre. Et ça ne suffisait pas. Il manquait quelque chose, vous allez voir, qui va venir, l'espoir. Et Dieu dit, « Mon esprit ne contestera plus indéfiniment avec les hommes. Ils vivront désormais 120 ans. » Vous savez ce que j'ai compris? réduisant l'espérance de vie des hommes, Dieu allongea l'espérance de vie de la planète. Réfléchissez. C'est impressionnant. Hein? Les hommes étaient tellement méchants qu'en vivant 800-900 ans, ils auraient tout pété. Il n'y aurait plus de planète, on ne serait même plus là aujourd'hui. Je pèse mes mots, hein? C'est vrai, j'en suis profondément convaincu. Et Dieu dit, ils vivront maintenant 120 ans. Ils ne peuvent pas vivre trop longtemps. Ils sont trop méchants. Impressionnant, hein? On arrive à la fin de notre diagnostic. En 1985, si vous pensez que c'était seulement dans l'Ancien Testament, c'est aujourd'hui, mes amis. En 1985, il y a eu une famine terrible en Éthiopie qui a été filmée, c'était ramené aux États-Unis, et Quincy Jones et Michael Jackson ont fait un chant, ont rassemblé des chanteurs ensemble. Ils ont produit un chant qui s'appelait « We are the world ». Vous connaissez. Ils ont ramassé beaucoup d'argent. Ils ont été aux charts. Ils ont fait un tube. Pendant des semaines, les Américains n'écoutaient que ce chant. Et les Américains donnaient de l'argent. 20 ans plus tard, tremblement de terre en Haïti. On refait le chant avec des stars d'aujourd'hui, des chanteurs d'aujourd'hui. Ils ont refait, ils ont appelé ça « We are the world 25 ». 25 ans plus tard, « We are the world », un remake. On ramène un vieux chant extraordinaire. Ça a été un échec total. Ça a resté, les journalistes, la radio, tout le monde s'en moquait. Ils ont ramassé très peu d'argent. Vous pouvez avoir votre opinion sur ces choses-là. Moi, j'aimerais vous dire, en 20 ans, le monde a changé. Les Américains qui ont donné, donnaient beaucoup moins maintenant. Pourquoi? Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'en 1980, il n'y avait pas d'Internet. Il y avait plein de vidéos, d'images qu'on n'avait pas. Les gens étaient touchés, mais aujourd'hui, les gens ne voient que ça. Quelqu'un m'a envoyé une vidéo aujourd'hui d'enfants pris sous terre dans un bunker en Syrie qui crient à l'aide et qui pleurent sur la vidéo. Vraiment, tout le monde s'en balance. Parce que nous, mes amis, touche ton voisin un instant. Pointe ton voisin. Dis-lui, il parle de nous. Notre génération est devenue insensible. Saviez-vous qu'il y a plus de conflits, de guerres aujourd'hui qu'il n'y en a jamais eu dans l'histoire de l'humanité, d'après les statistiques, depuis qu'on fait des statistiques? Mais franchement, j'aime les Français de tout mon cœur. Mais c'est quand la dernière fois qu'ils ont manifesté pour ça? Écoutez-moi bien. Juste, ma fille, elle a dit, « Papa, je ne veux plus que tu me répètes ça, ça me fait trop mal. » Écoutez bien, chaque minute dans le monde aujourd'hui, j'aimerais voir, j'ai rien contre certaines manifestations ne valent absolument rien, mais parfois les Français manifestent pour des choses qui valent la cause, je comprends, mais écoutez-moi bien, j'ai jamais vu que personne manifestait pour ceci, que chaque minute dans le monde, chaque minute, 21 enfants meurent à cause de la pauvreté. Un enfant meurt chaque 3 secondes à cause de la pauvreté. Personne n'est allé manifester Place de la République pour ça. Personne n'a brûlé une voiture pour ses enfants. Je ne dis pas qu'il faut brûler des voitures. Comprenez mon cœur. Notre société est insensible. Ces statistiques sont accessibles à tout le monde. Il y a 36 pays dans l'OCDE. L'OCDE, c'est la plus forte union économique au monde. L'OCDE est plus fort que toutes les nations. Et l'OCDE a demandé à ses pays membres de donner 1% de leur produit national brut, leur revenu national brut. 1%. 1%. Le Seigneur demande 10%. La dîme. Nos pays riches ne donnent même pas 1% de leurs revenus pour aider les pauvres dans d'autres pays. Saviez-vous ça? Tous les pays ensemble de l'OCDE donnent 0,30%. Ils donnent 30%, 0,30. Même pas 1%. Saviez-vous que depuis qu'on a des problèmes d'immigration en Europe, les gouvernements ont réduit l'aide pour les pays pauvres en disant qu'il faut la réaffecter pour les immigrés. Donc, au final, on donne encore moins. C'est impressionnant. Hein? Là, vous dites, mais pourquoi? Je vais vous dire pourquoi les gouvernements donnent moins. Les gouvernements écoutent le peuple. Si demain, nos pays donnaient leur dîme pour aider les pauvres, je vous garantis que le peuple se soulèverait contre les gouvernements. Parce que ça représente des milliards. Puis les gens diraient, hey, c'est mon argent. Nos générations, notre génération, notre peuple occidental est insensible. Mais il y a une bonne nouvelle. Tournez avec moi dans Actes. Chapitre 2, en terminant. Regardez-moi un instant. Ça a été un long diagnostic, OK? Mais il y a une bonne nouvelle. Amen. C'est un diagnostic très, très dur à lire, mais c'est la vérité. Et moi, je veux vivre dans la vérité. Ma génération est plus insensible que la génération de mon papa. Notre génération est plus dure que la génération qui nous a précédés. Indifférente, dure, insensible. Les politiques, écoutez-moi bien, tous les efforts de sensibilisation que vous pouvez voir dans la société ne réussiront pas. Il y a une seule chose qui marche. Une seule. C'est le Saint-Esprit. Le jour de la Pentecôte, ayant entendu ces paroles, la Bible dit, ils furent coupés au cœur. C'est beau, hein? Regardez, Actes, chapitre 2, verset 37. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. En grec, c'est le cœur percé. Le mot grec, c'est une aiguille qui traverse le cœur. Pierre, vous savez ce que Pierre leur a dit? Pierre leur a dit, vous avez crucifié Jésus. Écoutez-moi bien. Pierre n'a pas prêché 100 ans après Jésus-Christ. Il a prêché quelques semaines après Jésus-Christ. Ce sont les mêmes gens qui ont tué Jésus durement. Je ne dis pas tous, comprenez-moi bien. C'est la même génération que Jésus a dit, c'est une génération insensible. Mais il y a une œuvre que Christ n'est pas venu faire. Christ est venu donner sa vie pour nous, mais Christ n'a pas fait l'œuvre que le Saint-Esprit devait faire à la Pentecôte. Christ est mort pour toi, ressuscité, monté au ciel, a demandé à Dieu d'envoyer le Saint-Esprit, et sur la puissance du sang de Jésus, le Saint-Esprit venu a été répandu. Pierre prêche, et la Bible dit, « Ils eurent le cœur vivement touché, furent transpercés au cœur, et dirent à Pierre, « Que ferons-nous? » Mes amis, le seul espoir, c'est le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit vient, le cœur de l'homme peut être du roc, il passe à travers. Il fait péter le roc. Ma parole n'est-elle pas comme un marteau qui fait exploser le roc, la Bible dit. Quand le Saint-Esprit est venu, il a fait exploser. Et des hommes qui avaient le cœur dur ont eu le cœur percé. Amen. Quelques vérités en terminant ce soir. Je sais que je suis un peu long, mais... Être sensible, ce n'est pas un signe de faiblesse. Être sensible, ce n'est pas du sentimentalisme humaniste. Être sensible ne fera pas de toi quelqu'un de vulnérable. Tu peux compatir, tu peux être sensible envers les gens autour de toi. Dieu sera ton arrière-garde. Ésaïe 58 dit de prendre soin des pauvres et dit « Et l'Éternel sera ton arrière-garde ». Être sensible, c'est plus qu'un trait de personnalité. Vous avez fait des tests de personnalité, on en fait partout aujourd'hui. Il y a des gens qui sont plus enclins à être gentils envers les autres. On ne parle pas de ça ce soir. On parle de quelque chose de surnaturel. Tu peux être quelqu'un qui est naturellement dur. Il y a des gens qui sont naturellement durs. Il y a des gens qui sont naturellement super gentils. Il y a des gens qui sont naturellement un peu plus durs. Peu importe ton passé, peu importe d'où tu viens, peu importe comment tu t'es endurci, peu importe comment... Parfois, à travers les souffrances de la vie, peut-être tu t'es endurci. Peu importe. Le Saint-Esprit peut te rendre doux, sensible. Le Saint-Esprit prend l'homme déchu, indifférent, il en fait un homme nouveau, compatissant. Amen. La sensibilité spirituelle, j'invite les musiciens à s'approcher. Écoutez-moi, mais ça, c'est super important. C'est la grâce de ressentir ce que Christ ressent. Je le répète, c'est très important, restez avec moi. La vraie sensibilité, la vraie compassion divine, c'est une grâce, ce n'est pas nous. Mais c'est la grâce de ressentir ce que Christ ressent. Comment je peux le ressentir intérieurement? Une seule façon, Christ vit en moi. Il vit avec moi. Et j'aimerais même dire, son esprit vit avec mon esprit. Et ce qui va se passer dans ta vie, c'est que plus Christ va grandir, plus tu vas devenir compatissant, et tu vas devenir sensible, et tu vas devenir sensible tellement de plus en plus que parfois tu ne sauras même pas si c'est Christ ou toi qui est compatissant parce que vous êtes un ensemble. Christ a dit, je veux qu'il soit un avec nous, Père. Ça veut dire que des fois, tu vas avoir des moments de compassion qui sont surnaturels. Tu vas dire, ah, j'ai tellement compassion pour cette personne. C'est toi, mais c'est Christ. C'est Christ, mais c'est aussi toi. C'est les deux. C'est Christ qui vit en moi. Amen. Je termine. Comment est-ce que Dieu va s'y prendre? Parce qu'on pourrait aller beaucoup plus loin, mais le temps nous manque ce soir. Et mes amis, j'ai qu'une image en terminant. Prends une graine. La graine est là autour d'elle, la semence est là autour d'elle, ce qu'on appelle une coquille. OK? C'est la peau de la graine. Prends une noix. L'extérieur de la noix, elle est dure. Tu la sèmes dans la terre. Tu arroses la terre. L'humidité et la chaleur vont juste simplement ramollir la coquille. Ramollir la coquille. J'irai même plus loin, faire pourrir la coquille. Et alors que la coquille se ramollit, la vraie semence, elle va se libérer et elle va sortir. Jésus a dit, si le grain ne meurt, il ne peut pas porter du fruit. Alors en terminant ce soir, ce que Dieu veut guérir dans notre vie, parce qu'il dit, je suis l'Éternel qui te guérit. Dieu veut nous guérir d'un cœur insensible. Je vais juste demander de ne pas jouer un instant ce soir. Je crois à la musique, je crois à la louange. J'aime beaucoup la louange. Ma femme, il y a toujours de la louange chez moi. J'aime la louange. Je suis dans le métro partout. Je suis un homme de louange, d'adoration. Mais quand Dieu touche vraiment un cœur, on n'a même pas besoin de louange. Même pas besoin de créer un feeling. Après, ce n'est pas ce qu'on fait à l'Église. Hein, mais attention, ce n'est pas ce qu'on fait. On fait vraiment un ministère d'adoration. Et la Bible enseigne de s'entretenir par la louange et de venir vers Dieu. Mais tu n'auras pas besoin de mettre tes écouteurs et écouter trois chants d'adoration avant de regarder un SDF et de l'aimer, toi. Tu vas passer devant lui. Seigneur Jésus, c'est pas possible. Il faut faire quelque chose. Comprenez-vous ce que je veux dire? C'est ça la compassion. Comment on peut y arriver? Il faut que le Saint-Esprit vienne et fasse ramollir la coquille. Il n'y a que lui qui peut faire ça. Alors, mon ami, vous allez dire, « Pasteur Christian, prêche toujours le même évangile. » Eh bien, gloire à Dieu. Moi, j'ai qu'un évangile. La présence de Dieu. La présence de Dieu. La prière, la parole, s'entretenir de Dieu. Tu t'éloignes de Dieu, c'est comme si tu retires la graine du sol, elle va sécher. Remets-la dans la terre. Arrose-la. Nourris ta relation avec Dieu. Ne néglige pas tes temps personnels avec Dieu. Et le Seigneur, lui, va faire son travail. La coquille, elle ne peut pas ramollir d'elle-même. C'est la chaleur, c'est l'humidité, c'est la terre qui la fait ramollir. C'est Dieu qui ramollit nos cœurs. Amen. C'est Dieu qui nous rend sensibles dans un monde insensible. C'est Dieu qui change l'homme déchu, indifférent, en homme nouveau, compatissant. Amen. On va se lever ensemble. Hallelujah. Et tu peux jouer, hein? Pas de problème, c'est pas du feeling. Hallelujah. Est-ce qu'on peut juste tendre nos mains juste avant de se séparer et dire au Seigneur, Seigneur, quelque chose, on ne pourra pas être plus simple ce soir en terminant. Dis-lui, Seigneur, rapproche-moi de toi. Fais juste lui dire ceci ce soir. Seigneur, rapproche-moi de toi, Seigneur. Seigneur, c'est toi qui vas rendre mon cœur sensible, Seigneur. C'est toi qui vas guérir mon cœur de toute insensibilité. Tu guéris mon cœur de toute indifférence, Seigneur. C'est toi qui attendris mon cœur, Seigneur. Seigneur, tu changes mon cœur indifférent en cœur compatissant, Seigneur. Même si tu as été blessé peut-être par le passé, même si peut-être tu as tendu la main, tu as aidé d'autres et celui que tu as aidé t'a fait mal, alors tu t'es dit, maintenant je vais me protéger. Non, non, non. Dieu veut te guérir, Dieu veut que tu aides à nouveau. Hallelujah. Fais juste te demander là où tu es maintenant. Commence à prier. Hallelujah. On ne veut pas se séparer ce soir avant de prier. Dis-lui, Seigneur, attendris mon cœur. Seigneur, parle-moi, Seigneur. Dis-lui, Seigneur, parle-moi des gens qui souffrent, Seigneur. Parle-moi de mes voisins. Montre-moi comment tu vois mes collègues, Seigneur. Montre-moi comment tu vois les gens autour de moi, Seigneur. Hallelujah. Montre-moi comment tu les vois, Seigneur. Seigneur, je veux ton cœur ce soir, Seigneur. Je veux le cœur de Dieu, Seigneur. Protège-nous d'être insensibles, Seigneur. Hallelujah, 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 hallelujah. Dis-lui maintenant, ouvre ta bouche, invoque le Seigneur, appelle-le, hallelujah. Si ton cœur est dur, sois vrai avec Dieu. Dieu aime quand on est vrai. Dis-lui la vérité, dis-lui, Seigneur, mon cœur est dur, c'est pas possible, il y a des choses qui ne me touchent plus. Seigneur, renouvelle en moi, Seigneur. Un cœur nouveau, Seigneur, hallelujah. Un cœur sensible, Seigneur. Seigneur, je ne veux plus des préjugés, je ne veux plus juger les gens autour de moi, je veux les aimer, Seigneur. Hallelujah. Seigneur mon Dieu, il n'y a que ton esprit. Seulement ton Saint-Esprit peut faire cela, Seigneur. Seulement ton esprit peut rendre mon cœur sensible, Seigneur. Hallelujah. Hallelujah. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Hallelujah. Seigneur, Caïn a dit, « Suis-je le gardien de mon frère? » Mais toi, Jésus, tu as répondu, parce que toi, tu es l'homme nouveau. Et tu as dit, « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. » Alors, Seigneur Jésus, on va te demander ce soir, viens vivre en nous, Seigneur. Demande au Seigneur ce soir de t'aider à appeler quelqu'un qui ne va pas. Demande-lui, Seigneur, aide-moi à aller vers quelqu'un qui est loin de toi. Aide-moi, Seigneur, à appeler un frère, une sœur cette semaine, à texter, à m'inquiéter, Seigneur. Donne-moi de prendre des initiatives, Seigneur. Aide-moi, Seigneur, à le faire, à briser la gêne, briser la timidité. Peut-être que tu ne t'y prendras pas très bien, ce n'est pas grave. Dieu voit ton cœur. Aide-moi, Seigneur, à aller vers mon prochain, Seigneur. Aide-moi à considérer mon prochain, Seigneur. Au nom de Jésus. Seigneur, nous proclamons au nom de Jésus que tu es l'Éternel qui nous guérit, Seigneur. Et tout le monde dit Amen. Amen. Hallelujah.